Claude, on parle d'un hameau
qui se nomme Béas et qui fut bâti au XVIIIe siècle par des combattants vaincus, les Barbets, qui avaient refusé en vain l'intégration du comté de Nice à la France révolutionnaire. Béas, dans son vallon, aura eu une jolie vie en autarcie, mais n'était pas relié à la route, alors le XXe siècle l'a dépeuplé. Il n'en reste que des maisons en ruine ou promises à tomber, belles pourtant dans la lumière de Nice ce matin, qui nous dit que ce hameau oublié est devenu la passion de randonneurs qui le débroussaillent, le consolident, qui ont même réaménager une maison et y consacre une page Facebook. Mais à la mairie de Lucerame, commune dont dépend Béas, on nous dit que ce n'est pas la première fois que des rêveurs rêvent du hameau. Ça n'a jamais marché. Pourtant, cette histoire nous touche, tant nos journaux aiment le passé. Dans les veilles de la Haute-Loire, on nous appelle au don pour sauver l'église de Villeneuve-d'Allier, construite dans les années 1820 pour remplacer la chapelle tombée sous la Révolution. Pour prier alors, les paroissiens devaient traverser la rivière pour rejoindre Saint-Ulpice. Mais le bac n'était pas en bon état, ça leur faisait peur, on a construit. Dans la montagne, édition de l'Allier, on nous convie à la beauté d'une poutre en béton de 50 mètres de long, posée à moulin dans un jardin, en partie enterré. Mais cette poutre est désormais inscrite au monument historique, car elle témoigne du génie d'un ingénieur d'antan, Eugène Fraissinet, mort en 1962, l'année de ma naissance, inventeur du béton précontraint, un béton renforcé pour mieux supporter les charges et les tractions. La poutre de moulin était un essai de Fraissinet, qui au début du XXe siècle concevait des ponts sur l'Allier. Dans Le Monde, allez lire, forcément ému, en tout cas ceux de mon âge, comment le Havre se souvient du paquebot France, qui il y a 60 ans juste entamait sa première traversée de l'Atlantique. Dans un hangar, promis à démolition, sur un quai déserté du port, dorment les lettres lumineuses, hautes de 2,50 m, qui composaient le nom du bateau et qu'on voyait par temps clair à 7 km. On va peut-être les voir, ces lettres et puis d'autres reliques, la passerelle restaurée et un hublot, si les passionnés du France parviennent à monter une exposition ce printemps pour que le Havre et la France intègrent ce bateau à notre histoire. Pour l'instant, il n'est qu'une rêverie qui se dissipe quand les menus, les photos, les étiquettes de bagages que conservent les anciens de la ville se vendent et se dispersent quand les anciens s'en vont. Lisez ce que fut la puissance d'un bateau qui portait notre nom sous De Gaulle, sur lequel voyagèrent Belmondo, Delon et la Joconde, et ce geste d'un ancien infirmier du bord nommé Tanguy, qui cessa de fumer le jour où le France quitta le Havre. Il ne sait pas pourquoi.
On parle aussi d'avenir dans les journaux.
Et la voix du Nord se conjugue au futur quand Emmanuel Macron, président en chemise de cravate, y confirme l'arrivée à Dunkerque d'une gigafactory. Ça doit vouloir dire, je pense, grande usine. C'est un concept inventé par Tesla. Cette gigafactory va fabriquer pour Renault notamment des batteries bas carbone pour voitures électriques. Faut-il lire cette belle nouvelle à l'aune des doutes de la Croix qui se demande où nous pourrons les brancher pour les recharger en ville, ces voitures électriques ? Allons, journal de peu de foi. La Voix du Nord nous dit qu'une start-up grenobloise nommée Vercor, dont vous pouvez lire la saga sur les sites de France Bleu et du Dauphiné, va investir 1,5 milliard d'euros pour créer 2000 emplois directs à Dunkerque, laquelle a été préférée à Sandouville, près du Havre. Tiens, il y a des jours comme ça. Mais dans Paris-Normandie, le maire du Havre, Édouard Philippe, vous connaissez, qui soutient Emmanuel Macron, il le dit, parle aussi de ses projets pour la ville. Il soutient également le commerce avenue René Coty, qui fut un président, et où le magasin du printemps poursuit son activité. Dans les Échos, on nous raconte comment en 24 heures, 1 milliard d'euros ont été perdus dans une dispute de gens sérieux, charismatiques. C'est arrivé chez Soitec, pépite française des semi-conducteurs, dont le directeur général a été remercié par le président du conseil d'administration. Le conflit est devenu public et l'action a chuté, car ce milliard n'était qu'une capitalisation boursière, mais tout de même. Vous allez apprendre dans les Échos plein de choses sur le romanesque farouche des dirigeants d'entreprise et de quoi nos milliards sont faits. Dans l'Est éclair, 40 salariés nous disent que la modernité les fait disparaître. Ils travaillent pour Mediapost, filiale de La Poste, à glisser des publicités dans nos boîtes à lettres. Mais ces pratiques ne sont plus autorisées désormais que si les boîtes sont ornées d'un autocollant « Oui, pub !» Du coup, le marché se restreint. Pourront-ils, ces gens, être reconvertis en vrais facteurs ?
Et on parle donc de reconversion.
Et ce sont deux églogues, mes amis, de fables bucoliques, qui nous viennent. Dans l'Est républicain, l'histoire de Thibaut Grangier, qui à Grenoble, ville tech, était start-up peur hébergeur de sites internet et qui est devenu le préféré producteur de patates en Haute-Loire. Dans West France, vous rencontrez Jules Hermelin, qui lui est anthropologue, mais qui maintenant s'installe comme éleveur de vaches laitiers et fromagers. Le déclic lui est venu quand en Colombie, des paysans lui ont demandé comment on vivait chez lui à la campagne. Il n'a pas su répondre, alors il a retrouvé son terrain. Dans ses familles, on était d'un côté intello et de l'autre paysan. C'est beau les fidélités. Dans l'Indépendant, je lis que par fidélité, les Pyrénées-Orientales vont changer de nom et deviendront les Pyrénées-Catalanes ou le Pays Catalan. Dans Corse Matin, enfin, Corse Matin qui, comme souvent les journaux, porte la fidélité d'un territoire, je découvre un passé centenaire et oublié. Le rapatriement, dans les années 20, de cercueils de soldats insulaires morts dans la Grande Guerre. Ces années-là, dans toute la France, 300 000 cercueils sillonnèrent le territoire pour rentrer chez eux. À ce chiffre se mesure un sacrifice oublié.
Merci Claude pour cette revue de presse. France Inter.